également des particularités culturelles des peuples dans lesquels ces violences s'exercent. Par exemple, dans les sociétés arabes, de façon générale, selon les informations qui sont mises à la disposition, lorsque un homme viole une femme, s'il reconnaît les faits et accepte d'épouser cette femme qu'il a violée, il n'est pas passible de poursuites judiciaires, me semble-t-il.
C'est ce que j'ai aussi appris.
Vous voyez que dans ce texte-là, l'expression de la violence peut se faire autrement.
Tout à fait.
Pour en revenir à votre question, je voulais faire cette précision, particularité culturelle, mais je veux revenir à la question essentielle des formes de violence sexuelle. Il y en a plusieurs. Le viol.
À quel moment peut-on exactement parler du viol?
Il y a viol lorsque il y a rapport sexuel. Donc il y a la notion de pénétration d'un individu, de violer l'intimité. Je veux utiliser des termes moins déstabilisants pour les auditeurs. Donc il y a viol lorsque un homme, par exemple, a des rapports sexuels avec une femme sans son consentement. Il faut qu'il y ait la notion de pénétration. Mais cette notion est un peu plus large. Le viol ne peut pas se limiter simplement à l'utilisation du sexe.
Qu'est-ce que ça peut impliquer encore?
Ça peut être l'utilisation d'autres instruments dans l'intimité de la personne sans son consentement. On parlerait donc de viol. Il faut faire la différence entre la tentative de viol et le viol.
Y a-t-il des cas où les femmes ont violé les hommes, comme le demande notre auditeur Jean-Baptiste Onga?
Les données internationales sur la question sont disponibles. C'est les hommes qui violent les femmes en majorité. Mais le cas inverse aussi existerait, mais ce sont des phénomènes marginaux.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Revenons donc à nos formes de violence sexuelle. Nous avons le viol déjà. Quelles sont les autres formes de violence sexuelle qui existent?
Deuxième forme de violence sexuelle qu'on peut évoquer, c'est le harcèlement sexuel.
Et qu'est-ce qu'il implique, le harcèlement sexuel?
C'est le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité, d'exiger des faveurs sexuelles en échange d'un emploi, d'une promotion, d'un encadrement académique ou d'une réussite scolaire, universitaire. C'est le cas du patron avec la dame de ménage, de l'officier avec la combattante. C'est le cas du médecin avec l'infirmière, du directeur avec sa secrétaire ou du ministre avec sa collaboratrice, de l'enseignant avec l'enseigné avec eux à la fin. Lorsqu'une personne est dépositaire de l'autorité et exige, impose une conduite sexuelle à sa subalterne, à sa subordonnée, en sachant que si la personne refuse, il y aura un dommage, soit il perd l'emploi, soit il va échouer d'aller en classe supérieure. Alors en ce moment-là, c'est une forme de violence sexuelle qu'on appelle le harcèlement sexuel. Il faut aussi ajouter ce qu'on pourrait appeler l'excision, par exemple.
Les mutilations génitales qui sont pratiquées dans certains pays comme ceux d'Afrique de l'Ouest, enfin quelques pays en Afrique de l'Ouest.
Les mutilations sexuelles génitales, c'est une pratique qui est très courante dans les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et dans plusieurs pays d'obédience musulmane. Et donc, le fait de procéder à l'ablation d'une partie du clitoris de la jeune fille, et on en connaît les conséquences, peut-être que nous y reviendrons, et ça aussi, ça constitue ce qu'on appelle une violence sexuelle. Il y a aussi ce qu'on appelle le proxénétisme, hein, ça veut dire le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui. C'est une forme de violence sexuelle. Les mariages d'enfants et dans les groupes armés, c'est le phénomène en Afrique, on a une multitude de groupes d'armées qui passent de village en village et qui produisent des rafles et qui prennent des jeunes filles et des femmes qu'ils transforment en esclaves sexuels. Ça aussi, c'est une forme de violence sexuelle.
Toutes les violences sexuelles sont-elles facilement perceptibles ou reconnaissables ou identifiables?
Il y a des violences qui peuvent être sournoises. Par exemple, un parent qui va avoir des tendances obsessionnelles de contrôle de la virginité de sa fille arrivée à l'adolescence. C'est aussi une forme de violence sexuelle. Mais on peut aller au-delà, hein. Avec les nouvelles technologies, le fait d'envoyer des images à caractère pornographique à une personne que l'on drague ou on a de l'admiration, malgré le fait que la personne demande d'arrêter et que la personne continue à envoyer des messages, etc., ça aussi peut être considéré comme une forme de violence sexuelle. Voilà ce que je peux dire de façon succincte sur les différentes formes de violence sexuelle.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Notre auditeur Elke Trian s'intéresse aux causes des violences sexuelles. Mais vu la diversité et la complexité des violences sexuelles, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux causes du viol et du harcèlement sexuel.
D'abord, c'est une question culturelle et une question d'éducation. Les facteurs socioculturels jouent un rôle fondamental aussi dans les violences que les hommes font subir aux femmes. Dans certaines sociétés, on considère que la femme est au service de l'homme et qu'en réalité, elle doit en tout temps être au service de l'homme. Ça peut expliquer en partie le fait que les hommes n'ont aucun respect pour la femme. Deuxièmement, on peut parler de la consommation des substances psychoactives, comme l'alcool, les drogues, peuvent faire en sorte qu'il y ait des problèmes de jugement, de problèmes de perturbation de l'équilibre psychique qui peut pousser un individu à adopter un comportement allant dans le sens de violenter les femmes, puisque de façon générale, ce sont les hommes qui violent les femmes.
Les films à caractère pornographique peuvent-ils aussi être listés parmi les causes du viol et du harcèlement sexuel?
Puisqu'on parle du non-respect de la femme qui serait à l'origine de cela, la consommation abusive de films est érotique. Vous savez qu'il va avoir un effet sur la stimulation de la libido et le besoin de passer à l'acte. Et lorsque la personne n'a pas la possibilité d'avoir un partenaire disponible pour tenter de domestiquer cette pulsion sexuelle éveillée, c'est comme Freud disait, le destin de la pulsion, c'est le plaisir. On dit que si la personne est dans un état psychologique qui ne lui permet pas de refouler cette pulsion éveillée, la tendance peut être à ce qu'on appelle le passage à l'acte. Il y a aussi, on peut le dire, dans le contexte actuel, et j'insiste là-dessus, l'absence de sanctions exemplaires à l'égard des auteurs de violences sexuelles. La petite expérience que nous avons dans l'accompagnement et la prise en charge des victimes de violences sexuelles fait que lorsque l'auteur de la violence sexuelle est connu, et parfois il est mis à la disposition des autorités judiciaires pour que des sanctions exemplaires soient prononcées. Parce que le viol, dans la plupart des pays, le viol est qualifié de crime. Et donc, la personne, parce que certains pays, la justice ne fonctionne pas normalement. La personne qui est arrêtée ou appréhendée est libérée quelques jours après et qui revient dans le quartier narguer la victime et sa famille. Cela sert de mauvais exemple à ceux qui souhaiteraient également s'engager dans ce genre d'aventure. Donc je pense que l'exemplarité dans la sanction vis-à-vis des auteurs de violences sexuelles pouvait faire en sorte que ce phénomène puisse être maîtrisé.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
Malheureusement, on constate qu'il y a une certaine nonchalance dans l'application des sanctions à l'égard des auteurs de viols.
Vous avez vraiment évoqué plusieurs causes, mais est-ce qu'il y a aussi des facteurs qui peuvent faire que d'autres milieux soient plus exposés à ces phénomènes de violence sexuelle par rapport à d'autres?
Les milieux pauvres et aussi les questions des conflits armés, parce que le viol particulièrement est considéré actuellement comme étant une arme de guerre. Quand on viole dans le camp adverse, on inflige la souffrance pas seulement à un individu, mais à toute une communauté et une souffrance à long terme. Et donc, la prolifération des conflits armés est aussi un facteur qui favorise particulièrement le viol des femmes en Afrique et partout dans le monde. Voilà les éléments que je peux mettre à votre disposition concernant les facteurs qui sont à l'origine des violences sexuelles. Mais ces facteurs ne sont pas exhaustifs. Il faut savoir que l'éducation aussi, le fait que les cellules familiales et à l'école, il n'y ait pas des modules de formation à l'école et dans la famille, que les parents n'insistent pas sur l'égalité, l'équité des droits entre l'homme et la femme, sur le respect de la femme déjà dans le ménage, dans la famille, à l'école, ça aussi, ça peut être à l'origine de cela.
Ce que vous venez de dire confirme un peu le commentaire que la SCASEC a laissé sur notre page Facebook en disant que certains hommes ne savent pas contrôler leurs pulsions sexuelles et n'hésitent pas à violenter une fille. Et puis, il inclut aussi les paranoïaques qui sont obsédés par le sexe.
Évidemment, les troubles mentaux peuvent aussi être considérés comme un facteur de violence sexuelle. Peut-être qu'il utilise le terme paranoïaque sans en avoir le contenu, mais s'il ne s'agit peut-être pas de la paranoïa, il s'agit de l'obsession. Il y a des gens qui souffrent d'un certain nombre de perversions, dont le donjuanisme ou l'insatisfaction libidinale au rapport sexuel. On est toujours à la quête du plaisir et de la satisfaction. Et donc, évidemment, il y a des personnalités comme ça qui peuvent, dans leur construction mentale, être plus exposées à des actes de violence, évidemment, et des violences sexuelles.
Fiston Piana nous écrit depuis Colosie en République démocratique du Congo, mais aussi Laskasek, qui se demande si l'habillement sexiste des femmes n'est pas aussi élément déclencheur du viol.
Moi, je poserais la question, est-ce que si on voit sa propre petite sœur nue ou sa propre mère nue, est-ce qu'on la violerait? Je ne pense pas. La société humaine est une société codifiée par la morale. Il y a des règles. Évidemment, je ne suis pas spécialiste des tenues vestimentaires. On conseillerait à nos sœurs de s'habiller décemment, encore que l'accoutrement varie d'une société à une autre. Mais il est clair que, quelle que soit la tenue vestimentaire, la femme doit être respectée. C'est pas parce qu'elle a une tenue qui serait à l'entendement de celui qui l'observe obscène que la personne passerait à l'acte. Je ne pense pas que ça soit suffisant pour expliquer le comportement de violence vis-à-vis des femmes. C'est plutôt qu'il faut éduquer les jeunes et d'accepter les différences, accepter la femme et la respecter intégralement, peu importe la tenue vestimentaire. Ce n'est pas suffisant pour justifier cela.
Jean-Baptiste Onga dit ceci, et les femmes elles-mêmes ne font-elles pas des violences aux hommes ou ne harcèlent-elles pas les hommes?
Il y a des femmes qui dirigent des entreprises. Une femme qui dirige une entreprise peut être amoureuse de son collaborateur et de lui dire, moi je t'ai embauché, mais si tu n'as pas une relation amoureuse ou sexuelle avec moi, je vais te renvoyer. Là, il y a harcèlement sexuel. Parce que nous avons dit que le harcèlement sexuel, c'est le fait pour une personne dépositaire de l'autorité d'imposer une conduite sexuelle à sa subordonnée.
Donc on comprend bien que les hommes aussi sont parfois victimes de violences sexuelles de la part des femmes.
Les hommes peuvent être victimes de violences sexuelles, mais ce phénomène n'est pas aussi important que ce que vivent les femmes dans les cadres de conflits armés, dans le harcèlement sexuel à l'école, dans les entreprises et dans les administrations publiques. La plupart du temps, ce sont les hommes qui sont auteurs de violences sexuelle vis-à-vis des femmes. L'inverse est possible même si le phénomène est marginal.
Est-ce qu'on peut savoir le genre des femmes qui sont le plus à risque concernant le harcèlement mais aussi le viol?
Nous n'avons pas de données parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Mais de façon empirique, on peut dire que la beauté physique, l'âge, plus la beauté, plus on est joli, plus on est exposé. Plus on est jeune, plus on est exposé. Plus on est vulnérable au plan économique et au plan intellectuel, plus on est vulnérable. Parce que ce sont ces femmes qui sont dans ces profils-là qui seraient plus vulnérables. Parce que quand vous n'avez pas de ressources, lorsque votre directeur dit « je vais vous renvoyer » et que vous n'avez pas des compétences, vous savez que c'est difficile et cet emploi, vous en avez besoin pour survivre et pour faire face à vos responsabilités quotidiennes, à votre ménage, la tentation est grande de réfléchir deux fois, parfois, d'accepter cette forme de violence. Mais lorsque on sait qu'on a des ressources, on peut résister à cela.
Quelle que soit la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les femmes ou les victimes des violences sexuelles, que devraient-elles faire?
C'est important pour les femmes de se plaindre et parfois de porter plainte, de passer à l'acte, parce que la plupart du temps, les hommes continuent simplement parce qu'ils savent que les femmes ne se plaindront pas. Il faut que de plus en plus, les femmes prennent la parole et dénoncent les actes de violence dont elles sont victimes.
C'est vraiment important que les victimes dénoncent les violences sexuelles dont elles sont victimes pour aussi essayer de minimiser l'impact de ces actes sur leur vie. Mais on sait que les conséquences perdurent. Peut-on savoir quelles sont ces conséquences auxquelles les victimes des violences sexuelles doivent faire face?
Les conséquences sont physiques, psychologiques et j'allais même dire relationnelles. Pourquoi? Parce que le viol, par exemple, dans le cadre des conflits armés, qu'on appelle des viols en groupe, et parfois l'utilisation des armes dans le sexe de la femme, parfois nous avons des cas d'utilisation d'objets comme des bouteilles, des morceaux de bois, ça va avoir des conséquences. Et là, je profite de votre micro pour saluer le travail que fait le gynécologue Mukwege à l'est de la RDC, sanctionné par un prix Nobel de la paix, sur la charge des femmes victimes de viol. Vous voyez que les femmes, la voix qui donne la vie, qui se trouve être le corps de la femme, l'intimité de la femme, devait être inviolable, me semble-t-il. Et donc, du coup, la conséquence, c'est déjà sur la pérennité de l'espèce humaine. La conséquence, c'est sur la santé physique de la femme. Cette femme qui est réparée par le docteur Mukwege et qui va avoir une infirmité physique et qui va avoir des séquelles physiques de ce traumatisme vécu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les homicides parce qu'il y a une brutalité qui est faite à la femme au moment du viol pour la maîtriser. Il peut arriver au décès. À l'est de la RDC, ce phénomène, il devient courant et même banalisé. Et il faut que le monde entier se mette sur la protection des femmes et lutter contre les violences basées sur le genre.
Et qu'est-ce qu'on peut observer sur le plan médical comme conséquence?
Il y a l'infirmité, il y a la stérilité, il y a les troubles de la sexualité, mais il y a aussi d'autres pathologies, les infections sexuellement transmissibles, le sida. Il y a aussi ce qu'on appelle des grossesses issues de viol. Et quel est l'avenir de ces enfants qui naissent dans ces conditions où ils ne connaissent pas leur père? J'aimerais bien avoir des études là-dessus. Donc les conséquences sont énormes sur la femme. Et vous savez qu'il y a des organes chez la femme qui sont très investis au plan narcissique. Il y a son intimité, ses seins, etc. Et donc, ces organes sont très investis au plan narcissique et au plan symbolique. Lorsqu'on viole l'intimité de la femme, on crée une blessure narcissique qui peut avoir des conséquences à long terme sur sa sexualité.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Qu'en est-il des conséquences au plan psychologique?
Au plan psychologique également, le viol constitue un psychotraumatisme. Or, un traumatisme psychique, s'il n'est pas pris en charge, il peut conduire à l'émergence de ce qu'on appelle le PTSD, un état de stress post-traumatique qui peut se chroniciser et avoir des conséquences sur la vie de la femme. Donc du coup, il faut que nous prenions conscience que le viol va avoir des conséquences graves et laisser parfois des séquelles indélébiles dans la conscience pour la suite de la vie de la victime. C'est pour ça que c'est utilisé comme une arme de guerre, parce qu'on sait que les conséquences vont aller au-delà de la victime, mais c'est sur l'ensemble de la société. Chez la femme qui va avoir des troubles de la sexualité, le risque d'avoir ce qu'on appelle des comportements d'évitement, excitabilité neurovégétative, les comportements d'évitement, les flashbacks.
Les flashbacks, donc ces mauvais souvenirs qui reviennent?
Ces événements qui reviennent, la femme revoit ce qu'elle a vécu pendant le viol et elle a des troubles de sommeil et ça va avoir des conséquences sur la suite de sa vie, au moins sur sa santé mentale.
Alors à votre niveau, comment est-ce que vous faites la prise en charge de ces personnes qui sont victimes des violences sexuelles, notamment du viol ou du harcèlement?
À Brazzaville, par exemple, le gouvernement a mis en place dans deux hôpitaux de la ville des services spécialisés dans la prise en charge des cas de viol à l'hôpital de Makelele, à l'hôpital de Talangay, et le travail se fait très bien. Serment universel à avoir des psychologues qui travaillent sur le site de Brazzaville et à l'intérieur du pays. Et donc nous, souvent, c'est des informations qui nous sont remontées par la ligne d'écoute. Hein. Nous avons un numéro vert sur le sida, mais qui prend également des appels sur la problématique des violences faites aux femmes. On oriente les victimes vers les psychologues de l'association. On fait un travail de réhabilitation psychologique des victimes pour le réinvestissement de l'estime de soi avec des consultations individuelles et des psychothérapies de groupe homogène des victimes de violences sexuelles.
Ce genre de disposition n'existe-t-elle qu'à Brazzaville?
À l'intérieur du pays, particulièrement à Dolisie, la troisième ville du pays, nous avons un dispositif global. Nous travaillons en relais avec le parquet, la gendarmerie et le centre médico-social de Serment Universel qui assure un paquet de prise en charge globale, c'est-à-dire prise en charge médicale, psychologique, sociale et juridique des femmes victimes grâce au financement de la Fondation de France.
C'est très encourageant qu'il existe de tels dispositifs pour prendre en charge les femmes victimes des violences sexuelles, mais au plan familial, comment les proches et même les amis peuvent venir en aide aux victimes?
C'est une question fondamentale. Lorsqu'une femme est victime de viol, souvent dans certaines sociétés, on la considère comme étant une femme souillée, une femme impure. Elle est l'objet de rejet. Elle n'est plus acceptée dans les groupes sociaux, elle est victime de stigmatisation. Lorsqu'on fait cela, on renforce la femme dans son traumatisme. C'est qu'il faut que la femme soit entourée d'empathie, d'affection, d'amour par le cercle familial immédiat. Et donc, il ne faut pas culpabiliser la victime. Une victime ne peut pas être elle-même responsable de ce qui lui est arrivé. Il faut donc dévictimiser, permettez-moi l'expression, la femme qui a subi ce traumatisme. Il faut l'aider, l'entourer d'affection, d'attention et l'aider à réinvestir l'estime de soi et à réinvestir ses projets d'antan. Et c'est immédiate, de l'entourage immédiat de la victime. Et ça, ça permet à la femme victime de se resocialiser, de se réinvestir et de se reconstruire.
Et yeah, ça, c'est important parce que souvent, on a remarqué que dans le cas des violences sexuelles, c'est souvent les victimes, les femmes qui ont honte ou qui sont encore stigmatisées, pointées du doigt, alors qu'elles sont simplement victimes.
Absolument. Il faut renverser la pyramide. C'est l'auteur de la violence qui doit être stigmatisé et qui doit être condamné. Et la victime devrait être déculpabilisée et accompagnée, entourée d'affection et entourée d'attention, d'empathie.
Fiston Piana, qui est donc de la RDC, revient avec une question. Il veut savoir comment remédier à ces violences sexuelles.
La première chose, et nous revenons là-dessus, il faut l'éducation des garçons. Les garçons, dès le bas âge, il me semble-t-il que le garçon est socialisé par une femme dans le milieu familial. Et donc les valeurs qu'on doit inculquer à l'enfant sur le respect de la femme, c'est important. Deuxièmement, l'école devrait jouer ce rôle pour que les garçons et les femmes vivent de façon égalitaire et que les droits sont respectés et que l'équité soit de mise entre les deux sexes. Troisièmement, c'est la sanction. On devait être intraitable sur les questions de violence sexuelle et que les gouvernants devaient faire en sorte que lorsque une victime se plaint et que l'auteur est connu, il faudrait bien que réparation soit faite et que l'auteur soit jugé et condamné. Et c'est de cette façon qu'on va décourager les violences vis-à-vis des femmes.
Charles Bazema estime qu'on ne finira jamais avec ce phénomène tant que les femmes elles-mêmes ne prendront pas leurs responsabilités. Qu'en dites-vous ?
Dans la plupart des pays, il y a maintenant des ministères de la promotion de la femme, des droits des femmes. Il y a des associations féminines qui travaillent, hein, qui sont en première ligne et en pointe sur cette question-là de lutte contre les violences sexuelles. Mais vous imaginez, dans le cadre d'un conflit armé, que peuvent faire les femmes lorsqu'on dit que les femmes doivent être en première ligne ? Évidemment, les femmes doivent faire le travail, mais ce n'est pas un travail de femmes ou d'hommes, c'est un travail de la société. La société est bonne lorsque les hommes respectent les droits des femmes, et lorsque les femmes respectent les droits des hommes, et lorsque la population s'épanouit en harmonie. Et donc la meilleure façon, c'est de que les hommes et les femmes travaillent en synergie dans la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que la femme elle est victime, mais qui est l'auteur ? C'est l'homme. Donc il faut une prise de conscience collective au niveau des pays.
Pour terminer, quel est le conseil que vous donnez à tout le monde ?
Il faut nécessairement que le dispositif juridique soit fonctionnel. Lorsqu'il y a le droit n'existe pas ou n'est pas appliqué, la jungle s'installe. Il faudrait que les autorités publiques soient intraitables avec les auteurs des violences basées sur le genre, particulièrement les cas de harcèlement sexuel et de viol. Deuxièmement, les victimes ne doivent pas se taire. Elles doivent se déclarer pour aller d'abord à l'hôpital. Parce que lorsqu'on a été victime de viol, par exemple, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire de donner des médicaments antirétroviraux, un protocole spécialisé dans les 72 heures pour que si le violeur était porteur du VIH, que la femme soit protégée au maximum pour qu'elle ne soit pas séropositive à l'issue de ce viol. Et pour éviter aussi ce qu'on appelle une grossesse non désirée issue d'un viol. Troisièmement, c'est que le viol va avoir des conséquences psychologiques chez la victime et quand on a consulté un médecin, un gynécologue, après, il faudrait bien qu'on consulte un psychologue clinicien qui va faire une évaluation d'un état de stress post-traumatique post-viol.
Nous vous remercions pour votre expertise.
C'est moi qui vous remercie.
Vous venez de suivre notre discussion avec le docteur Julien Makaya, psychologue et cofondateur de l'association Fermo Universelle à Brazzaville, en République du Congo. C'est aussi ici que s'achève cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, qui était axée autour des violences sexuelles. Notre invité de la semaine, le docteur et psychologue Julien Makaya, a donné une claire définition des violences sexuelles. Il a également évoqué quelques raisons qui peuvent pousser les hommes à adopter ces comportements déviants et destructeurs. Puis, il a mentionné quelques moyens susceptibles de les combattre. Ce programme santé vous a été présenté par Nanit Salani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires.